Bonjour Quentin Mouron.
Bonjour.
Avec ce quatrième roman, vous changez un peu de cap, vous vous frottez au roman noir. Est-ce que vous aviez besoin, comme vos personnages, d'éprouver de nouvelles sensations?
Ben, je crois que quand on a des obsessions, ce qui est mon cas, quand on a des thèmes de prédilection, ce qui ne veut pas dire qu'on écrit toujours la même chose et sur les mêmes choses, mais je crois qu'au bout d'un moment, on a envie de... Simplement, c'est une question de connaissance. Aussi, Kundera disait qu'un mauvais roman, c'est un roman qui n'apprenait rien de nouveau. Et je pense que pour qu'un roman puisse apprendre quelque chose de nouveau, il faut aussi se mettre en danger, il faut se mettre dans d'autres situations, il faut mettre ses personnages dans des nouvelles, dans un nouveau cadre, leur faire faire de nouvelles choses, dans des nouvelles situations, des nouveaux pièges. Je pense que ça, c'était une nécessité. Alors ensuite, le roman noir, c'est arrivé presque. Ça, c'est quelque chose, disons, qui ressort du domaine de la critique. Moi, je suis tellement peu calé au niveau des genres et tout ça, donc je me disais, moi, je sais pas si c'est un roman noir ou si c'est un polar ou si c'est. Je savais pas vraiment ce que j'étais en train de faire, à part qu'il y avait une enquête, qu'il y avait un détective, qu'il y avait. Donc, j'ai évidemment repris certains codes du polar, mais je pense que c'est vraiment une manière pour moi de remettre sur la table mes thèmes de prédilection, mes obsessions, et puis d'en faire quelque chose de nouveau.
Et qu'est-ce que vous avez appris de nouveau alors?
C'est difficile à dire, mais je pense que, par exemple, si on prend une réflexion qui est celle du déterminisme, qui était déjà présent dans mes autres livres, dans les trois premiers, d'utiliser une intrigue, de voir comment peut évoluer une enquête policière par rapport à un meurtre avec un personnage. Alors, je veux pas révéler la fin, mais tout ça a été pour moi un apprentissage, et je pense que j'ai réussi à retranscrire une partie de cet apprentissage pour le public.
Sur votre site internet, Quentin Mouron, à propos de votre dernier roman, vous écrivez avec humour, bien sûr, qui vous caractérise. Ai-je besoin de préciser qu'il s'agit de mon meilleur ouvrage?
Oui, parce que j'ai toujours l'impression que le. Et j'en suis toujours convaincu qu'il y a une. J'espère pour l'instant qu'il y a une progression. Le troisième étant supérieur au deuxième, le deuxième au premier, et celui-là, en effet, me semble supérieur au précédent. Alors, je le pense, alors je le dis évidemment avec humour, et je sais bien que les lecteurs seront peut-être pas d'accord. Bon, il y en a qui me disent, moi j'adore Notre-Dame de la Merci, voilà, et d'autres adorent la combustion humaine. Bon, pour ma part, c'est vrai que pour l'instant, je le défends et je suis certain que c'est le meilleur.
On retrouve votre plume, votre regard aiguisé sur la société, mais au service d'une histoire, cette fois vraiment avec une trame serrée, et ça démarre comme dans un roman policier, ça démarre avec un meurtre.
Absolument. C'est vrai que les deux derniers étaient restreints sur 24 heures, donc c'était une temporalité très serrée. Il se passait pas grand-chose. Enfin, il se passait beaucoup de choses, mais au niveau de l'action, c'était. Là, j'ai eu envie aussi d'être plus libre. Alors, c'est une liberté conditionnelle, si j'ose dire, dans le polar, parce que forcément, on doit retomber sur nos pattes. On a,
Et des codes?
il y a des codes, il y a des contraintes. Il y a une cohérence à avoir. J'étais pas sûr d'être fait pour cette cohérence-là au début. Ça a pas toujours été facile. Et puis finalement, ça, j'ai réussi à jouer le jeu.
Bon, après, ce qui est intéressant avec les codes, c'est qu'on peut les transgresser, ce que vous faites aussi.
Oui, bien sûr, parce que je me voyais mal, disons, écrire un roman typiquement type Michael Connelly ou de type même Elroy, que j'adore pas forcément, je le lis volontiers, mais sans y vouer le culte qu'on lui voue habituellement. Donc c'est quelque chose de très codé, de très. Des fois, on a l'impression qu'on finalement on a simplement à découvrir le schéma, puis on arrive à trouver l'assassin. Et même les rebondissements, ça fait partie de quelque chose qui est attendu, d'un espèce de pacte déjà. Donc on sait qu'il y aura un rebondissement et on sait. Donc moi, j'avais envie de casser ça, j'avais envie de tout simplement de pas m'y faire enfermer. Alors j'étais d'accord de prendre en charge certaines contraintes, ça fait partie du jeu, mais j'avais pas envie non plus que ça bouffe complètement mon propos et que ce soit plus qu'un que. Alors j'aime le côté divertissement du polar, et je pense qu'on est diverti, et je pense qu'il y a du suspense, et je pense qu'on peut le lire d'une traite jusqu'à la fin de manière plus ou moins haletante, mais ensuite c'est pas le but non plus, tout est pas fait pour qu'il y ait des rebondissements en masse et que ce soit un feu d'artifice.
Le but, c'est quoi alors?
Je pense que le but, c'est de maintenir justement une intimité, une proximité avec mes thèmes de prédilection. C'est aussi le but, je pense, que c'est d'explorer des nouvelles manières de dire les choses, de nouvelles manières de porter son regard soit sur la société, mais aussi pas seulement sur la société, parce que c'est clair qu'il y a une forte portée sociale dans ce roman, mais il y a aussi une portée plus métaphysique, et vraiment d'interroger l'homme. Et je pense que ça, on arrive à le faire avec le tout en divertissant. Finalement, c'est ces fameux codes du théâtre classique, instruire en divertissant.
Tout ça dans un climat assez noir, c'est encore une fois la couleur qui impose le genre. Le noir vous va bien, Quentin Mouron?
Je crois que le noir me va bien. D'ailleurs, je sais plus qui me disait l'autre jour, je t'ai vu à la télévision, t'étais en blanc, ça t'allait pas du tout. Je dis, bon, ça m'arrive d'être en blanc, mais c'est vrai que je crois que le noir me va assez bien, vestimentairement et littérairement. C'est pas après un choix, parce que on peut être très noir, être très drôle en même temps, être très coloré. Il y a toutes sortes d'enfers qui peuvent s'ouvrir comme ça sous les jardins parfaits. Donc ça, c'est aussi le but. Mais là, c'est vrai que ça me va assez bien. Alors, j'ai pas non plus voulu entrer dans cette espèce de surenchère de réalisme, d'hyper réalisme qu'on retrouve soit dans une espèce de veine trash, ou soit dans la veine du roman noir, où des fois on a l'impression qu'il faut faire glauque pour faire glauque, et puis que si on n'a pas notre quota de jeunes filles découpées et violées, ça va pas, on va pas arriver à, on n'a pas un vrai roman. C'est un peu ce que j'ai mis en scène d'ailleurs avec le personnage du romancier de polar qui apparaît dans le texte, et qui est une sorte de parangon de ce type de littérature.
Il y a un personnage extraordinaire, c'est Franck, évidemment, détective privé. Alors lui, c'est l'anti-flic bien pensant.
Oui, alors c'est vrai que là, on n'est pas dans le flic habituel qui est généralement divorcé, qui est alcoolique, mais qui a quand même un bon fond, et puis qui, donc, non, alors là, en effet, Franck n'a pas forcément un bon fond. Franck est assez insaisissable, on n'a pas son nom de famille, on a presque rien de son histoire, on a quelques éléments comme ça, mais qui sont nécessaires à l'intrigue. C'est vraiment, il y a une économie de moyens, et par contre, alors, on le retrouve au présent, c'est, si j'ose dire, sans jouer sur les mots, mais un personnage qui est très présent, parce qu'on a justement, on l'a par le dialogue, on l'a par le discours, on l'a par la verve, par les gestes aussi, mmh. Et puis pas du tout par son passé ou par son histoire. Donc.
Et on s'y attache aussi parce que il incarne pas le bien, le mal, ce qui est moral, ce qui est immoral. Lui, ce qui l'excite au fond, c'est juste d'être libre.
Oui, voilà, je crois vraiment que c'était l'envie de créer un personnage par-delà bien et mal, avec une espèce d'élan nietzschéen, mais un élan nietzschéen qui se pète la gueule à la fin quand même, avec un élan nietzschéen qui est pris de vertige. Donc c'était vraiment le but de se placer au-delà de juste de dire voilà, il y a les bons, il y a les méchants, et puis pour faire semblant qu'on est quand même pas si manichéen, on a un bon mais qui est quand même des fois un petit peu méchant. Alors il donne des petits coups de pied aux enfants dans les parcs, et puis ensuite il se boit une bière et puis il recommence à être bon. Enfin c'était pas ça. Je voulais vraiment un personnage qui soit libre, voilà. Je pense que
et on l'aime bien aussi parce qu'il a ce côté sombre, et puis qu'on a tous envie de croire qu'on a un Franck en nous, c'est-à-dire un mec qui a pas envie de rentrer chez lui le soir.
Oui, je crois, voilà, exactement. Et puis il y a aussi que il produit une masse aussi d'observations, de discours dans lesquels on peut se retrouver. Donc je pense que c'est là aussi qu'il y a l'ambiguïté, c'est que c'est quelqu'un qui est à la fois détestable et puis en même temps dont on peut se sentir assez proche.
Il fallait que cette intrigue-là soit américaine. Quentin Mouron, on connaît votre histoire, vous avez vécu aux États-Unis, c'est pas la première fois que vous écrivez sur les États-Unis. Cette histoire-là, dans le laveau, à la Chaux-de-Fonds, ça le faisait pas?
À la Chaux-de-Fonds, ça l'aurait fait, oui. Mais je pense que quand même, j'aime bien le côté américain. Le problème, c'est que quand vous vous rapprochez trop, on vous demande des comptes. Alors, on va vous dire, mais là, c'est pas comme ça que ça fonctionne, un interrogatoire de police à la police cantonale vaudoise, et c'est pas comme ça, les grades, c'est pas les bons. Tandis que là, je me fous complètement de savoir si les détails de la procédure n'a pas été respectée. C'est des choses où je peux être beaucoup plus libre en étant aux États-Unis. Et puis, c'est vrai que c'est un pays auquel je suis attaché. C'est un pays qui m'a beaucoup marqué, qui a marqué aussi mon parcours d'écrivain. Donc, j'avais envie, d'y retourner, mais d'y retourner de manière spéciale, puisque dans le premier, je décrivais vraiment ce que j'avais vu, tandis que là, Boston, c'est une ville dans laquelle je suis passé, où Watertown existe, les Bellames n'existent pas, l'hôtel où est Frank n'existe pas non plus, donc j'ai pu imaginer tout ce que je voulais, j'ai pu vraiment faire acte de liberté et vraiment prendre énormément de distance par rapport même à l'histoire de la ville. Je parle à un moment d'un maire qui lui non plus n'a pas existé. C'est vraiment pas du tout le but de donner un documentaire sur Boston, mais c'est vraiment de créer un cadre où un personnage va pouvoir évoluer.
Et puis les autres transgressions, c'est-à-dire pas celle de la réalité, mais transgressions morales, sont quand même plus délicieuses dans un pays extrêmement puritain.
Oui, c'est vrai que là, il y a un petit côté sympathique. C'est vrai qu'il y a quelque chose. Alors, on aurait pu aussi le placer dans une certaine Genève calviniste. On aurait pu le placer dans certaines de nos contrées, parfois, comme ça, un peu refermées aussi sur elles-mêmes. Mais je pense que là, oui, je pense que Boston se prêtait bien, disons, et la côte est particulièrement.
C'est un roman qui va certainement opérer un tournant dans votre jeune carrière d'auteur, Quentin Mouron, parce que c'est votre première publication en France, La Grande Ourse. Comment ça s'est passé?
Ça s'est fait par étapes. Moi, j'avais envie d'aller en France parce que mon éditeur lui-même reconnaissait que c'est Olivier Moratel, que c'était difficile pour lui d'opérer au-delà des frontières. Et puis, en fait, il s'est aussi mis un peu comme ça, comme jeu. Puis aussi parce qu'on est devenus amis depuis le temps. Donc, il m'a dit, mais je vais aussi essayer de faire des recherches de mon côté pour un éditeur. Et puis, on cherche chacun. Et puis, on envoie. Et puis, lui, il a pris, il a pris le contact dont La Grande Ourse, enfin, avec plusieurs maisons d'édition, dont La Grande Ourse. Et puis, on a eu un bon dialogue ensuite avec Paulina Nourricier. Je les ai rencontrés. Puis, on a vu qu'on pouvait travailler ensemble.
La fille de François Nourricier.
Voilà, exactement. Exactement. Donc c'était agréable à savoir. C'est vrai que ça a peut-être compté un peu, mais surtout je crois que c'est vraiment sa lecture où j'ai vraiment senti qu'elle avait compris le texte. J'avais eu d'autres réponses, d'autres éditeurs qui étaient ouverts, mais où j'avais vraiment l'impression qu'il passait un peu à côté du texte. On me disait, ah oui, c'est bien, mais c'est pas tout à fait un polar, donc peut-être qu'on pourrait arrondir certains angles pour que l'intrigue soit plus développée, et là, je me suis dit, bon, bah, si c'est pour faire un énième polar, ça m'intéresse pas. Autant, là, j'avais vu que quelqu'un avait bien compris le texte, et du coup, j'ai accepté de bon cœur d'aller chez eux.
Qu'est-ce que ça va changer? Alors évidemment, un nouveau public, parce que la Suisse romande, mine de rien, elle était déjà acquise, ce public-là.
Oui.
C'est de se faire connaître, c'est d'espérer se faire remarquer pour les concours de la rentrée. Comment vous imaginez tout
Alors,
ça?
j'ai pas, pour ma part, c'est toujours, je suis en général tellement fatigué une fois que le livre sort que j'ai pas vraiment le temps encore de penser à tout ça. Et puis, j'assure en plus la promotion. Donc, après, à long terme, c'est plus difficile à voir. Ça, c'est aussi entre les mains de l'éditeur maintenant, en France. Mais je pense que oui, je pense que leur but, c'est évidemment ça, c'est de propager la chose, d'essayer de, disons que certains succès que mes précédents livres aient rencontrés en Suisse puissent être exportés et puissent être aussi oui comme ça donc ça retrouver se retrouve en France ou en Belgique ou au Québec. Donc je pense que ils sont partis dans cette direction-là. Je crois que pour l'instant, en tout cas, j'ai déjà reçu pas mal de mails de libraires en France, en Belgique, qui me disent que qu'ils ont beaucoup aimé, qui se réjouissent, que félicitations. Donc ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. Donc alors, je sais pas encore où on en est au niveau média, mais en tout cas au niveau des libraires, au niveau du public, je crois que c'est un livre qui est en train de faire une bonne percée.
J'ai lu dans le livre Hebdo, qui est quand même fort respecté par les milieux littéraires et bien au-delà, à propos de votre roman, alors qu'il n'était pas encore paru en France, Quentin Mouron, la nouvelle étoile venue de Suisse. Ça en jette quand même.
Oui, c'est vrai que ça donne bien. Oui, ça c'est vrai que ça m'a fait aussi assez plaisir. D'ailleurs, je l'ai propagé sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai que c'est tout à fait plaisant. Moi, je boude jamais ce genre de petites flatteries d'ego. Ça fait, il y a
Ben
assez de crève-cœur
oui.
et de petites humiliations par-ci par-là pour que quand enfin il y a quelque chose de bien qui se produise, je vais pas dire oh mais quelle horreur, c'est pas du tout ça. Je suis pas une étoile. J'allais pas pour le coup, je me suis pas changé en trou noir, donc j'ai vraiment, je suis resté.
Mais vous êtes prêt psychologiquement à ce qu'on vous compare toujours à Joël Dicker? Parce que ça commence déjà visiblement après Joël Dicker, le
Oui,
nouveau.
mais ça me dérange pas du tout. C'était finalement quelque chose d'assez attendu, forcément, avec le succès que son livre a eu. Et puis en plus, je fais quelque chose qui ressemble à un polar, donc forcément, qui se passe aux États-Unis et sur la côte Est. Même si, à mon avis, les deux livres sont pas du tout comparables, je pense que c'est quelque chose qui va revenir et ça me dérange pas du tout. Ça m'amuse et puis je le prends pas du tout mal.
Merci Quentin Mouron.
Mais de rien, merci de m'avoir reçu.